Europe 1, 14h-15h.
Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, sous toutes ses formes d'ailleurs, car après être revenu sur les engagements de Kirk Douglas samedi dernier, on va aujourd'hui s'intéresser à un documentaire sorti en salle il y a quelques jours. Son titre « Adolescente », Sébastien Lifshitz, le réalisateur qui sera avec nous juste après le récit, a suivi deux ados à Brive-la-Gaillarde pendant 5 ans de la vie d'adolescente et de la vie d'une société marquée notamment par les attentats. Je vous raconte tout ça dans un tout petit instant. Juste après, à 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Corinne Maziero qui a accepté de répondre à notre questionnaire. Alors, quel film l'a fait le plus rire ou le plus pleurer? Quel est son film honteux ou la bande originale de sa vie? Réponse tout à l'heure. Et puis, à 14h40, on retrouvera nos critiques pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier. Avec un programme riche aujourd'hui, La Daronne, avec Isabelle Huppert en trafiquante de drogue. On parlera aussi du Bonheur des Uns, comédie portée par Florence Foresti, François Damiens ou Vincent Cassel, de Rox également, et du seul et unique Ivan sorti sur Disney+. On ira également à la sortie des salles voir ce que vous avez pensé de ces films. Voilà pour le programme, et d'abord donc notre récit « Adolescente, un documentaire sur une jeunesse au cœur de notre société ».
Europe 1, le récit.
L'adolescent est une figure classique du cinéma, depuis sa création même. La première fiction des Frères Lumière, en 1895, mettait déjà en scène un jeune garçon, vous avez peut-être vu ce film, L'arroseur arrosé, avec cet ado qui embête ce pauvre jardinier avant de se faire courser et tirer l'oreille. Allez le voir sur internet, vous le trouverez facilement. L'autorité de l'adulte y est déjà représentée. Et c'est un thème que l'on va retrouver dans beaucoup de films traitant de la question de l'adolescence. À côté d'autres thématiques, les relations avec les parents, le deuil, l'apprentissage d'une conscience politique et bien sûr, les premiers émois amoureux. Beaucoup de réalisateurs ont été inspirés par cette période, nous offrant parfois d'ailleurs des films devenus cultes. Qui n'a pas été marqué par l'ennui de Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté, le film qui l'a révélé.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Ou bien par les premiers sentiments amoureux de Sophie Marceau dans La Boum.
Oh, tu peux pas savoir ce qu'il représente ce sifflet. C'est lui ce sifflet. Et puis il a posé sa bouche là. Et puis t'as vu le petit cœur qu'il a collé?
Tu penses sublime le petit cœur.
Juliette, elle avait 15 ans et Roméo est bien.
Ah oui, oui, oui. Regarde où ça les a menés, hein.
On aurait aussi évidemment pu parler notamment de Grease, de La Fureur de Vivre, de La Maman et de la Putain ou encore des 400 coups. La liste est longue. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le documentaire « Adolescente » dans lequel Sébastien Lifshitz suit pendant 5 ans le quotidien de deux ados, de la 4e à la terminale. Je vous présente donc Anaïs et Emma. Elles ont 13 ans, elles vivent à Brive-la-Gaillarde. Emma, c'est l'introvertie. Elle suinte la mélancolie, elle est ce qu'on appelle une enfant de la classe moyenne supérieure, entourée, très entourée par ses parents, voire même un petit peu étouffée par sa maman, on y reviendra. Sa meilleure amie, c'est donc Anaïs, l'opposée. Elle est extravertie, croque la vie à pleines dents, comme le veut l'expression consacrée, et vient d'un milieu très populaire. Elle doit s'occuper de ses petits frères, délaissés par une mère instable.
T'as vu le film 16 vœux ?
Pas sûr.
Je crois qu'à partir de maintenant, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. Mais moi, j'aime... Putain, mais moi, c'est des rêves fous, moi, que j'ai.
Moi aussi, j'en ai plein. Je les ai marqués, comme ça.
Ouais.
Ces interrogations sur leur avenir, elles vont y revenir tout au long du film. Anaïs, de son côté, est abandonnée à ses questions, elle doit se débrouiller seule, alors qu'Emma est encadrée et subit la pression familiale qui veut qu'elle réussisse, une incompréhension générationnelle.
C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Musique.
Ouais, je suis trop forte, 20 moyenne en musique, maman.
Musique, ça sert à rien.
Ça sert à rien la musique? Et dis-moi que ça va me servir les maths alors que je vais écrire des mangas, s'il te plaît.
Français, 7,5. Et bravo en techno, 4,5. Félicitations.
Mais va voir mes notes.
Et tu comptes avoir le brevet comme ça l'année prochaine?
Va voir ma note de...
T'as les clés en main. Tu remontes ta moyenne.
J'ai une tête à remonter ma moyenne, moi.
Et Sébastien Lifshitz, le réalisateur, les a donc suivis pendant 5 ans. 5 années qui ont vu notre société se transformer. Alors il y a eu les élections de 2017, l'émergence d'une première conscience politique pour nos deux ados. 5 années durant lesquelles la France a été aussi durement touchée et éprouvée par les attentats.
De manière, depuis la nuit des temps, la plupart des guerres et des batailles, c'est parti à cause des religions. Donc je vais pas dire que ça va s'arrêter. Mais les musulmans, je suis désolée, c'est pas eux qui ont fait ça. C'est pas les musulmans, c'est les djihadistes et les terroristes. Et excuse-moi, mais pas dans le même panier de terrorisme et musulmans, parce que c'est pas du tout pareil.
Et c'est la force de ce documentaire de Sébastien Lifshitz, qui dresse un portrait de notre adolescence, mais aussi une radiographie de notre société. Alors bien sûr, l'adolescence, c'est aussi ce moment où l'on découvre les papillons dans le ventre, les premiers émois amoureux.
Je peux me poser une question. Mmh. Pour toi, c'est quel âge l'âge idéal pour en faire pour la première fois?
N'importe quel âge, on va dire.
Mais pour un gars, je pense pas que c'est plutôt...
Non, c'est pas pareil, les mecs.
Vers 15-14 et tout, et pour les filles, plus vers 16 ans. Parce que c'est jeune quand même, 15-14 ans.
Quand même, plutôt 17-18 pour moi, mais après...
En gros, si je le fais cette année, pour toi,
ça dépend des gens.
Mais ce qui est terrible dans le film, et on va en parler dans quelques minutes avec le réalisateur, c'est à quel point il illustre le déterminisme social. Car ces deux ados que je vous présentais sur un pied d'égalité, il y a 5 ans, au début du film donc, eh bien on les retrouve 5 années plus tard, dans une voie qui était presque déjà toute tracée. Notre fille de la classe moyenne supérieure est partie à Paris, faire ses études pour devenir actrice, là où sa copine, elle, est restée cantonnée dans sa ville et cherche sa voie.
Mais je me demandais, parce que tu vois, genre, tu vas partir à Paris, moi je vais partir sur Limoges. Tu penses qu'on se reverra? Ou genre on se reverra plus?
Non, on se reverra.
En tout cas, tu vas me manquer. Hein.
Non, il faut pas en parler, moi, ça me rend triste.
Tu vas me manquer.
En fait, j'aime pas qu'on me parle de... Genre, je sais pas ce qu'on va faire l'année prochaine.
Ouais, mais bon, faut peut-être qu'on en parle à un moment donné, tu vois. Puis ça se trouve, on gardera pas contact, en vrai.
Voilà, c'est toute la force de ce documentaire. Être à la fois un portrait de l'adolescence d'aujourd'hui, mais aussi un portrait de la France. Drôle à certains moments, émouvant à d'autres. Mais en tout cas, toujours très juste. Et on en parlera dans un tout petit instant avec le réalisateur de ce documentaire, Sébastien Lifshitz. Mais d'abord, un extrait de la bande originale. C'est Tindersticks, Sweet Memory, dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. Watching the days go by isn't half the fun it used to be. When I could reach out from inside the folds of your skin. Watching the sun rush by isn't half as good. Now it's so silent around here. Over the memory, the folds of your skin. And I never want to spend another day, not a single moment from your side. No, I don't even want to spend another day, not a single moment from your side. I'm still running forwards and backwards, I'm inside and outside your blood. And over the memory, I can taste no other. Sweet memory, I can see no other. She came like light through my heart, folds of your skin. Watching the sun pass, I can taste no other. Tindersticks, extrait de la bande originale d'Adolescente dont on parle depuis quelques minutes dans Clap, votre émission cinéma. Et je suis très heureux d'accueillir le réalisateur de ce documentaire, Sébastien Lifshitz. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, techniquement, comment on impose, comment on glisse une caméra dans le quotidien de ces jeunes filles pendant 5 ans? Comment vous avez tourné? Est-ce que vous veniez quelques jours par mois? Est-ce que vous restiez sur de plus longues périodes?
Je venais à peu près une fois par mois pendant 2-3 jours et ça a duré 5 ans.
Oui.
Après, sur l'invisibilité de la caméra, ça prend plus de temps. En fait. D'abord parce qu'il fallait que les filles s'acclimatent à notre présence et au fait d'être filmées dans n'importe quelle situation, que ce soit des choses très intimes ou des choses très banales qu'elles pouvaient faire dans la journée. C'est vrai qu'au début, souvent, elles avaient tendance, quand on arrivait, à me faire un petit peu un show.
Oui, c'est ça. On sent parfois, même peut-être un peu plus au début du documentaire, qu'elles sont peut-être un petit peu plus dans la représentation, avec les parents notamment, et qu'après tout ça s'oublie, que la caméra s'oublie.
Au début, en tout cas, parce que je pense qu'elles étaient un peu en contrôle, hein, et qu'elles voulaient jouer un peu à l'actrice, en fait. Et moi, souvent, je laissais faire, je disais rien, je me disais qu'il fallait que ça sorte, Mais très vite, au bout de quelques heures, le naturel revenait. Puis le quotidien revenait tout simplement. Votre mère qui vous demande de faire, de mettre la table, mettre le linge là où il faut, etc. Enfin bon, toutes ces choses du quotidien et qui font qu'à un moment, bah, vous sortez de votre personnage fantasmé comme ça. Et dans le fond, ce que moi je filmais, c'était beaucoup plus ça. C'est-à-dire cette espèce de quotidien d'une gamine de 13 ans et qui essaye petit à petit de s'affirmer.
Il n'y a aucun moment où ils vous ont dit on arrête la caméra. Il y a notamment des scènes parfois d'engueulade avec les parents qui sont assez violentes, où on voit les parents un peu humiliés par leur enfance qui arrive. jamais les parents, jamais elles ne vous ont dit stop, on arrête là la caméra, jamais.
Non, c'est jamais arrivé. C'est vrai qu'elles ont eu une confiance, elles et leur famille d'ailleurs, une confiance totale. J'ai toujours filmé avec leur accord tout ce qui se passait. Mais je dirais que les engueulades, bon, alors évidemment, elles apparaissent là de manière spectaculaire dans le film, mais je dirais que ça fait partie du quotidien des parents quand même. Oui. C'est vraiment un âge de révolte, c'est un âge d'affirmation, c'est un âge où on veut absolument se décoller de ses parents et affirmer ce que l'on est. Et ça ne peut se faire que dans une forme de révolte. On est quand même face à une génération de parents, je trouve souvent très inquiets. La société est très anxiogène. Plus on est informé, dans le fond, plus on est angoissé. L'avenir fait peur. Et on a des exigences vis-à-vis de nos enfants, quoi. Donc, du coup, elles se révoltent évidemment contre ça, quoi. C'est à un moment, c'est trop.
Vous dites, c'était en plus qu'on vit une période angoissante, et c'est ce qui est intéressant dans ce documentaire. C'est qu'en plus, évidemment, vous allez traverser toute cette période des attentats, vous allez traverser la période des élections présidentielles particulières. Ça, vous ne le saviez pas quand vous commencez le documentaire, que vous alliez en plus tourner dans une période... Il y a toute une discussion qu'on entendait il y a quelques minutes sur les attentats et sur toutes ces questions que se posent ces adolescentes. Ça, vous ne le saviez pas au départ?
Non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pouvait anticiper, comme les élections présidentielles. Je savais évidemment qu'elles feraient partie des 5 années. Mais les drames, par exemple, successifs des attentats, évidemment, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais pour moi, j'ai trouvé très important, aussitôt que c'est arrivé, en fait, on s'est précipité là-bas parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on n'entendait que les commentateurs habituels, les politiques et des adultes, en fait. Mais on n'a absolument pas donné la parole aux ados, aux enfants en général, et d'essayer de se rendre compte qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et moi, j'avais cette chance, justement, d'être là-bas et de pouvoir leur donner la parole. Et de voir en gros comment ils pouvaient réagir face à ces événements dramatiques.
Comment vous les avez trouvés? Comment vous les avez sélectionnés, ces deux adolescentes, Emma et Anaïs? Parce que finalement, elles représentent notre société, ces différentes classes sociales.
J'ai fait un casting à Brive. Brive est une ville vraiment d'ados. Il y a une dizaine de collèges, lycées. Et après le bac, tout le monde part à Bordeaux, Clermont, Limoges. Mais l'espace, en tout cas, du collège-lycée, il y a une concentration d'adolescents incroyable, ce qui fait que pour moi, c'était un vivier génial pour pouvoir faire un casting. Et je cherchais un garçon au départ, parce que je me suis dit qu'étant moi-même un garçon, que ça serait plus simple de filmer l'intimité de quelqu'un de mon propre sexe et qu'une fille, à cet âge-là, probablement aurait du mal à être regardée par un homme. D'abord parce que le corps change beaucoup, et puis... Bon, j'avais imaginé en tout cas que ce serait difficile. Et les proviseurs, en fait, de Brive m'ont fortement encouragé à ouvrir vraiment le casting aux deux sexes parce qu'eux avaient remarqué, en tout cas dans leur collège, que les filles de cette génération étaient vraiment différentes à leurs yeux. Ils les trouvaient beaucoup plus affirmées, beaucoup plus matures, beaucoup plus soucieuses de l'égalité des sexes. Ils trouvaient que c'était une nouvelle génération et qu'ils les trouvaient plus intéressantes. Donc ils m'ont dit, vraiment, vous devriez ouvrir... le casting aux deux sexes, ce que j'ai fait. Et Emma et Anaïs sont arrivées.
Elles sont copines au départ?
En fait, moi, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'elles arrivent séparément avec leurs parents et je les trouve toutes les deux étonnantes, incroyables. Et je n'arrivais pas à les départager. C'était impossible. Elles étaient,
Parce qu'au début, vous en cherchiez qu'un ou qu'une, quoi.
Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai appris qu'elles étaient meilleures copines dans le même collège, dans la même classe. Et là, j'ai eu cette évidence de faire un film, en fait, sur cette amitié à l'épreuve du temps. Et puis un portrait de chacune séparée.
Ce qui est terrible, c'est qu'au début du film, on les voit chacune ensemble, deux adolescentes de 13 ans. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure où les années passent que le déterminisme social joue. C'est-à-dire que celle, la jeune fille de classe moyenne aisée qui rêve de devenir actrice, eh ben, elle va partir à Paris faire des études d'actrice. et que l'autre, eh ben, elle va rester à Brive. Alors, elle va quand même avoir un diplôme, mais finalement, ces deux gamines qu'on a trouvées au départ vierges de tout, en tout cas, nous, on les connaît pas, eh ben, on se rend compte que c'était presque déjà joué depuis le départ. Vous l'avez ressenti, vous, ça, en tournant le film ?
Bien sûr. Bah, ce déterminisme, il est là en permanence, je dirais même depuis la naissance, d'une certaine façon. Elles ne se battent pas avec les mêmes armes. Anaïs, elle a cette conscience quand même de l'histoire de sa famille. Ses parents ont arrêté l'école à 13-14 ans. Je me souviens quand elle a eu son brevet des collèges, elle appelait sa mère, elle ne revenait pas elle-même. Et sa mère ne la croyait pas. Donc il a fallu qu'elle prenne une photo pour lui prouver qu'elle l'avait. Parce que dans cette famille, la réussite scolaire, ça ne fait pas partie de leur ADN. Quoi. Ils ont comme accepté en fait, leurs conditions, leur sort d'une certaine manière. Ce qui fait que le parcours que fait Anaïs est une sorte de miracle. Ils n'en reviennent pas. Alors que Emma, de l'autre côté, on est dans une famille où la question, par exemple, du bac,
oui.
Elle n'est même pas une question. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'avoir ou pas.
C'est une formalité.
C'est une formalité. Il s'agit plutôt de savoir si tu vas avoir une mention et de tout faire pour avoir une mention. Donc, c'est sûr que les enjeux ne sont pas les mêmes. Les pressions non plus. Mais il n'empêche que pour Emma, elle est quand même quelqu'un qui doute terriblement. On a l'impression que c'est une brindille, en fait. Elle est tellement peu sûre d'elle. Elle ne cesse de douter. Puis elle a une sorte de mélancolie aussi. Ce que n'a pas du tout Anaïs. Après, ça ne veut pas dire que Anaïs, je dirais, n'est que cette force de la nature. Elle est probablement aussi quelqu'un qui, par moments, souffre. Hein. Et elle avait une certaine pudeur d'ailleurs par rapport à ça. Elle aimait pas montrer ses moments de faiblesse en fait. Je pense qu'elle a une exigence vis-à-vis d'elle-même de tout transformer en positif pour aller de l'avant. Parce qu'elle essaie de sauver sa peau en fait.
Alors si vous avez vu le film, la question suivante va vous intéresser. Si vous l'avez pas encore vu, vous réécouterez cette partie de l'émission juste après, être allé le voir. Et que sont-elles devenues aujourd'hui ? J'imagine que vous avez toujours des nouvelles. Le film a été tourné il y a quelques mois sans doute. Elles en sont où ?
Ben, Emma est à la fac à Paris. Anaïs faisait des études d'aide-soignante. Elle a un peu craqué pendant son parcours. Elle a arrêté au milieu d'un stage. Et ça a été, et c'est encore un sujet de conversation entre elle et moi, où je lui dis à quel point il est important qu'elle soit diplômée. Parce que sinon, elle se réserve un avenir sans qualification, avec des petits jobs intérimaires, une vie précaire. Et elle va, d'une certaine manière, répéter l'histoire familiale, en fait. Mais c'est difficile parce qu'elle a conscience de tout ça. Hein, et elle se bat, évidemment, pour trouver l'énergie. Mais il y a des moments où elle flanche, quoi.
Eh bien, merci beaucoup de les avoir suivis et de nous avoir permis de les suivre grâce à ce documentaire adolescente signé Sébastien Lifshitz. Vraiment, je le conseille à nos auditeurs. C'est rare, mais j'ai pas vu une critique négative sur le film. J'ai peut-être pas lu les bons journaux, mais j'ai vu que des choses positives. Donc vraiment, allez découvrir ce documentaire en salle, c'est le moment, il n'y a pas forcément une offre pléthorique de films, et bien profitons-en pour aller découvrir des beaux documentaires. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite dans Clap. Nous on se retrouve dans un tout petit instant pour notre séquence Les films de ma vie, et c'est Corinne Maziero qui nous a répondu aujourd'hui, qui va donc nous raconter quel est son premier souvenir de cinéma, son film adoré mais honteux, voilà, c'est dans un tout petit instant sur Europe 1, tout de suite.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on se retrouve pour la suite de l'émission cinéma Clap sur Europe 1, et vous le savez maintenant, tous les samedis à 14h30, on soumet une personnalité à notre questionnaire de Proust, mais version 7e art. Et c'est Corinne Maziero qui a accepté de nous répondre aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Faites bien de la voix d'enfant. Est-ce que vous êtes prête ? Une série de questions, voilà, vous nous répondez vos souvenirs de cinéma.
Je veux bien, mais moi je suis nul à chienne dans ce genre de truc, donc vas-y, envoie la purée.
Alors, votre premier souvenir de cinéma ?
Eh bien, figure-toi que j'en ai pas. Je me rappelle pas. Aussi loin que je puisse me souvenir, c'était un film qui s'appelait Les Fous du Stade et c'était Les Charlots. Et j'avais été voir ça quand j'étais en vacances à Stelle-la-Plage où on allait régulièrement.
On va là, c'est pas la route du village. On va à la ville, on va voir les sportifs. Les sportifs, je m'en balance, moi je veux voir des listes. Bah justement, tais-toi, suis-nous, tu vas comprendre.
Bah ouais, c'était marrant parce qu'aller au cinéma, c'était quand même, c'était pas rien, tu vois, ça coûtait déjà cher à l'époque. Et on était dans un vieux cinéma où il y avait encore des sièges en bois, tu sais, où ça fait comme ça, avec un grand rideau avec plein de pubs locales dessus et tout ça. Alors, c'était un moment festif tout le temps, ouais.
Votre pire souvenir en salle ?
Ah oui, si, il y en a un. Alors, comment ça s'appelle, ce truc, le silence des agneaux, je sais pas quoi, un truc comme ça. Je savais pas du tout ce que c'était, je connaissais pas les bouquins de ça. Et je suis allé dans ce truc avec des copains, ils m'ont dit, ouais, on va aller voir ça, hein. Et c'était, ça devait être, c'est en plusieurs parties, en fait. Et donc, je comprenais rien, je me suis dit, quoi, ce délire. Et à un moment, le film s'arrête, je dis, bah, ils font des entr'actes au cinéma, pourquoi pas, donc je vois que tout le monde sort, donc je sors. Puis je dis, mais c'est à quelle heure que ça reprend? Il me dit, bah non, c'est fini. Bah comment ça, c'est fini? C'est en plusieurs parties. Et là, j'ai tapé un scandale. C'est honteux, pourquoi c'est pas marqué? Fallait me le dire et tout ça. Ouais, c'était mon pire souvenir.
Bonsoir, Clarisse. Que fait réellement ce meurtrier que vous recherchez? Quelle est sa première motivation? À quel besoin se sent-il contraint d'obéir?
La colère? Le rejet perpétuel? Trop de frustration sexuelle?
Non. La convoitise.
La plus belle scène de cinéma, selon vous?
Plus belle scène, oui, il y en a plein. Il y a celle du film de John Waters. Il y a Divine qui, à un moment donné, qui est sublime. Divine, moi quand j'étais ado, je voulais être Divine. Et qui est dans une magnifique robe sirène avec une grosse choucroute, maquillée superbement. Et qui prend une petite crotte de chien qui la mange. Voilà, pour moi, ça c'est top moumoute.
Le film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer.
Ah, j'ai jamais honte, moi. Ah bah non, j'ai jamais honte. On est allé présenter Effacer l'historique de Gustave et Benoît à la Cinémathèque. Il y avait des grands posters de Funès. Et il y a une époque, c'était un peu honteux de dire ça. Moi, ça n'a jamais été une honte. Moi, de Funès, c'est ma référence. La seule biographie, les deux seules que j'ai lues dans ma vie, c'est celle de Funès et celle de Maurice Piala. Pour te dire, les deux extrêmes. Et les deux, je les vénère.
Et maintenant, Blas, flattez-moi.
Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne.
C'est pas une flatterie, ça, c'est vrai.
Le film qui vous a fait le plus pleurer?
Ah bah c'est... Il y en a plein. Il y a des films de Louis-Julien Petit, par exemple, dans Les Invisibles, où là j'ai beaucoup pleuré. Et notamment, à la fin du film, il y a une scène où toutes les filles traversent des matelas qui sont par terre pour aller choisir de suivre, d'aller là où on leur dit d'aller ou de se barrer. Et elles passent devant toute une rangée de CRS comme ça. Et c'était la fin du film et il y avait la musique de Aretha Franklin reprise par Annie Lennox qui s'appelle Sister. Et elles passaient tous comme ça entre les flics en les regardant. Et c'était super fort, vraiment super fort. Et chaque fois que je vois cette scène-là, à chaque fois c'est...
Je serais ému encore quand vous en parlez.
Ouais, ouais, vraiment.
Le film que vous avez le plus vu?
Le plus vu, c'est Buffet froid de Bertrand Blier. Je l'ai vu parce qu'en fait à l'époque je l'ai vu à la télé et puis je connaissais pas rien du tout à l'époque et je me suis dit putain on va faire ça avec des potes et tout ça, donc comme à l'époque il n'y avait pas les moyens techniques de maintenant, j'ai réussi à trouver un magnétoscope chez un copain, on l'a enregistré et j'ai tout recopié les dialogues à la main, donc je faisais avance, stop, je réécrivais avance, stop, et je sais pas, j'ai dû le voir une cinquantaine de fois.
Fais pas le con, je sais pas nager.
Tu sais pas nager?
Mais non.
T'aurais jamais dû me dire ça.
Pourquoi?
Parce que je vais te pousser.
Mais non.
Mais si. Vous pouvez pas faire autrement. Si moi je ne l'avais pas poussé, lui il m'aurait poussé.
Parce que vous savez pas nager non plus?
Bien sûr que non, je ne sais rien faire.
Et pour finir, votre bande originale préférée?
Les musiques de films, bah si, il y a Amadeus. Amadeus, que j'ai vu aussi, je sais pas, une bonne trentaine de fois. Amadeus, ça c'est, ça m'a fait aimer, découvrir et aimer Mozart. C'est bizarre, hein, parce que je sais pas du tout ma tasse de thé, mais ouais, Amadeus.
On va écouter Amadeus pour se quitter alors.
Ah oui, d'accord, avec le fameux rire de Tom Hulst.
C'est excellent. Vous avez donné là un opéra tout à fait nouveau ce soir.
Alors, vous avez été conquis, vous?
Certain, j'ai adoré, c'est mieux que tout. Encore que, n'est-ce pas, il va de soi que ça et là, je dis ça et là, il y est, en certains endroits, j'ai trouvé qu'il y avait... Ah, comment...
comment dire, un peu trop de notes, votre majesté. C'est cela, très bonne formule. Un peu trop de notes.
Merci beaucoup Corinne Mazureau d'avoir répondu à ce questionnaire.
Merci, et allez au cinéma, retournez aider le cinéma français.
Et justement, nous on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. Et on va débattre avec mes confrères critiques des films sortis en salle mercredi dernier. À tout de suite.
14h-15h, Clap, Mathieu Charrier sur Europe 1.
Et c'est maintenant l'heure de retrouver nos critiques dans Clap pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier. Avec autour de la table aujourd'hui Marilyn Le Tertre de Madame Figaro, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et Geoffrey Crété d'Écran Large, bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Alors au programme aujourd'hui, on va discuter de La Daronne avec Isabelle Huppert en trafiquante de drogue. On parlera aussi du Bonheur des Uns, c'est porté notamment par Vincent Cassel, Florence Foresti ou François Damiens, de Rox, que le distributeur nous présente comme un Ken Loach au féminin, on verra si vous êtes d'accord. Et puis on dira un mot du seul et unique Ivan, disponible sur Disney+. Mais d'abord donc La Daronne, le nouveau film de Jean-Paul Salomé, porté notamment par Isabelle Huppert.
Il y a une femme qui deal des tonnes de shit dans Paris, on est incapable de la choper.
Sur la tête de ma mère, c'est de la patate de chez patate.
Ça fait toujours plaisir hein, quand le client est content du produit.
C'est pourquoi ces types t'ont frappé? Parce que ce shit là, que tu leur vends, il est à eux.
Ouais, on bouge là, frère. La galérance, elle est finie, là.
La galérance, elle est finie.
Isabelle Huppert, qui est donc Patience Portefeux, interprète à la Brigade des Stupéfiants. Elle a une vie plutôt terne. Elle est d'ailleurs elle-même assez austère lorsqu'un jour, elle surprend une conversation entre dealers, pour faire simple, et met la main sur une grosse, grosse quantité de drogue, de cannabis. Elle se dit, tiens, si je la récupérais, si je l'écoulais, cette drogue, puisqu'elle a tous les réseaux, elle a les numéros de téléphone grâce aux écoutes téléphoniques. Et notre patience, Isabelle Huppert, donc, devient une dealeuse à la tête d'un vrai réseau. Alors vous, qu'en avez-vous pensé?
Je suis enchantée.
Super.
Pour une fois, un film non violent et voilà. Féministe. Oui. Et
thriller et en même temps comédie, tout.
Tout à fait ce que j'attendais. Isabelle Huppert est au top. Les personnages secondaires sont vraiment très sympathiques.
Un bon policier, Isabelle Huppert qui est étonnante, comme d'habitude.
J'avais déjà lu le bouquin, ça avait bien été retranscrit.
J'ai trouvé que c'était bien enlevé.
Mais elle parle vraiment arabe, vous savez pas?
Bon, c'est un peu tiré par les cheveux comme histoire. Il y a aussi pas mal d'humour, c'est pas très, comment dire, moral.
C'est la première fois que je viens à une séance à 9h pour voir ce film, et pas de regret.
Voilà, pas de regret, le public plutôt emballé. Elle a vraiment pris l'arabe, je précise, hein, Isabelle Huppert, enfin en tout cas les sonorités pour bien jouer les traductrices. Geoffrey Crété, qu'avez-vous pensé de cette daronne?
Moi je comprends pas trop le film, j'ai l'impression qu'il hésite du début à la fin, il ne sait pas sur quel pied danser. Ça aurait pu donner quelque chose d'un peu joli, un petit peu décalé, un film un peu à la Serge Boson, aux frères Larrieux, mais je trouve que c'est pas maîtrisé, c'est trop bancal. D'un côté, ça se la veut comédie, ça se la joue comédie un petit vraiment décalé avec Isabelle Huppert.
Ouais, comédie populaire.
Il y a un côté très grotesque qui est plutôt amusant et qui me donne envie. À côté de ça, il y a quelque chose qui est plus premier degré, thriller, polar. L'intention me plaît, j'aime bien le mélange des deux, mais je trouve que ça ne marche pas, c'est pas drôle, c'est pas très engageant, c'est visuellement pas très stimulant. Je trouve que pour un film qui se veut si fantaisiste, c'est assez plat en termes de mise en scène. Isabelle Huppert au milieu des notes. Ça aussi, c'est amusant dans l'intention, mais c'est un petit peu la Isabelle Huppert qu'on voit trop ces derniers temps, qui joue Isabelle Huppert dans les films. Donc le poisson hors de l'eau, ça m'amuse sur le papier. Mais dans le film, je trouve que ça fait un mélange beaucoup trop bordélique et ça manque vraiment de maîtrise, d'énergie et justement de folie. C'est ça qui est paradoxal.
Marilyn Le Tertre, La Daronne.
Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ah. Justement, ce que j'aime, c'est le mélange des genres. Pourquoi choisir, après tout? Évidemment, on nous l'a un peu vendu comme une comédie. Il est très important de dire aux auditeurs
que
on ne rit pas toutes les deux minutes. C'est aussi un polar, mais c'est aussi une chronique sociale parce que finalement cette daronne, si elle devient daronne, elle devient daronne parce que elle est acculée par les dettes, elle ne peut plus subvenir aux besoins de sa maman.
Qui en est
donc
pas de...
en fait, voilà, il y a aussi le côté chronique sociale et un autre thème assez fort du film, c'est la sororité, puisque c'est une vraie histoire de solidarité entre femmes. Cette daronne qui va aider l'infirmière de sa maman, qui va se faire aider par, je n'en dis pas trop, qui va rencontrer une mafieuse chinoise, voilà. Et moi, j'avoue que je me suis laissée embarquer dans l'aventure. Évidemment, Isabelle Huppert prend un malin plaisir à se déguiser et à avoir une partition extrêmement complexe et double, puisqu'elle passe de la sage interprète, bien sous tout rapport, à cette espèce de daronne autoritaire qui mène les petits voyous au pas. Donc voilà, moi j'ai passé un moment très agréable. Si je devais mettre un petit bémol, c'est que par moment ça manque un petit peu de rythme et qu'il y a quelques petits clichés communautaires. Voilà.
Parce qu'à un moment, on va aussi dans la communauté chinoise. Voilà. Mais en tout cas, ça montre aussi des quartiers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma. Bon, Geoffrey me fait une petite moule. La daronne, signé Jean-Paul Salomé, avec un Hippolyte Girardot aussi qui est très drôle en commissaire de police complètement floué.
Clap.
Deuxième film dont on débat aujourd'hui, alors là j'en attends le pire, c'est Le Bonheur des Uns de Daniel Cohen. Alors pourtant casting prestigieux, Bérénice Bejo, Vincent Cassel, François Damiens.
J'écris un livre, voilà.
T'es en train d'écrire un livre, toi?
Oui. Bon, écoute, oublie, c'est pas grave.
Non, bah non, attends, on a trop dit là. Attends.
Si ça c'est publié, je veux dire, moi je suis hyper publié, non?
J'ai écrit un livre, il y a plein de gens qui l'achètent. Du coup, bah, je passe un peu à la télé. T'es rien du tout, hein. Ça va s'arrêter. Hein.
250 000 exemplaires vendus. Je croyais que c'était rien du tout.
On était bien comme on vivait avant, bordel, non? Avant, c'était simple. Je me disais un truc à l'écouter.
Tu seras pas un petit peu jalouse, toi, par hasard?
Absolument pas!
Bérénice Bejo, qui est donc une femme discrète, vendeuse dans une boutique de fringues, écrasée par son mari, c'est Vincent Cassel, sous le joug aussi de sa meilleure amie, c'est Florence Foresti, elle-même mariée à François Damiens, j'espère que vous me suivez. Lorsqu'un jour, Bérénice Bejo publie son premier roman qu'elle écrivait à ses heures perdues, roman qui va connaître un vrai succès, elle va devenir célèbre. Et ça, évidemment, ça va déstabiliser tout l'équilibre de son couple, mais aussi sa relation avec ce couple d'amis. Vous savez, c'est cette petite jalousie qu'on éprouve parfois quand on rentre d'un dîner. Est-ce que ça vous a fait rire ?
C'est frais, c'est très bien écrit. J'ai adoré.
Bien joué, assez surprenant même par moment.
Enfin, on a rigolé du début jusqu'à la fin.
Bérénice Bejo est remarquable. Elle est rayonnante.
J'aimerais pas être amie avec des gens comme ça. L'image de l'écrivain est en gros quelqu'un qui devient très riche. Et puis toutes les autres personnes autour de Bérénice Bejo sont assez bêtes. Et voilà, il y a un grand mépris pour les personnages de la part de l'auteur.
C'est dommage parce que ça part d'une façon très drôle et assez brillante. Et à la fin, on s'emmerde parce qu'il n'y a pas de fin.
Voilà, c'est aussi pour ça que Marjorie Adelson va vous voir à la sortie des salles, parce que même si certains ont quelques réserves, globalement vous avez rigolé. Il faut avouer que la presse cette semaine a défoncé le film. Marilyn, avez-vous participé à ce lynchage général?
Pas du tout, car je n'aime pas défoncer les films, mais j'ai de grosses réserves.
Voilà.
C'est-à-dire que je suis d'accord avec la spectatrice qui dit que Bérénice Bejo est rayonnante. Je trouve qu'elle est vraiment l'atout numéro un du film. Après, je trouve que le sujet est très intéressant, parce que le sujet, c'est comment le succès peut mettre à mal le couple et l'amitié. Ça aurait pu donner une comédie vraiment grinçante, intéressante, mais il lui fallu pour ça qu'il y ait un Woody Allen, admettons, derrière la plume et la caméra.
Il y a un Daniel Cohen.
Ben, je le trouve pas très inspiré. Je me suis très très vite ennuyée, à vrai dire. Et souvent les répliques, me faisaient un petit peu mal aux oreilles. Je trouve pas ça très finement écrit.
C'est vrai que l'intention de départ nous fait rire, mais que c'est pas forcément tenu jusqu'au bout. Geoffrey Crété.
Eh bien moi, ça a été une petite bonne surprise.
Ah.
Eh oui.
Nous avons le journaliste qui défend le film.
Exactement, je suis le seul. Parce que peut-être que je m'attends au pire. Mais je trouve qu'il y a justement plus d'esprit qu'on ne pourrait croire. Et c'est notamment dès la première scène dans le restaurant. Il y a une sorte de grande dispute absurde autour d'un dessert.
Et je trouve que
c'est long.
Interminable. Mais justement, je trouve que l'intention, c'est vraiment de faire une étude de caractère par l'absurde et par le trivial pour montrer comment les personnages se décrochent les uns des autres. Ça s'étire, mais j'ai trouvé que c'était étiré d'une manière avec un tempo différent de la comédie classique française un peu chiante. Après, ce qui m'a plu, c'est que justement, ça continue comme ça à écrire les personnages, en faire des gens qui sont un petit peu monstrueux, qui sont complètement bouffis d'orgueil. Alors évidemment, le film, il a plein de défauts. Moi, le principal, c'est que c'est quasiment comme s'il y avait deux films qui coexistaient. D'un côté, il y a le sketch Foresti, François Damiens, qui, je trouve, un peu trop loin et dénote avec le côté un peu plus sérieux, cérébral du côté Bejo et Cassel. Les deux ont un peu du mal, je trouve, à avancer l'un avec l'autre. Il y a beaucoup d'occasions manquées. Je trouve qu'au contraire, Bérénice Bejo, qui a un rôle vachement intéressant, qui est une bonne actrice, il y a beaucoup d'occasions manquées en termes d'émotion, notamment vers la fin avec elle. Donc le film m'a un peu laissé sur ma faim, mais je reste quand même sur une jolie surprise. Peut-être parce que je n'en attendais rien. Peut-être.
Bon, bah écoutez, tant mieux. Voilà pour le bonheur des uns. On a aussi parlé de la daronne. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. On parlera de Rox et du seul et unique Ivan. Ça, c'est un film qui vient de sortir sur Disney+. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier.
Et vous êtes toujours dans Clap, votre émission cinéma. On débat des films sortis en salle mercredi dernier. Alors juste avant cette petite pause, on parlait de La Daronne et du Bonheur des Uns. Place maintenant à Rox. D'abord, extrait de la bande-annonce.
Yo, Samantha!
How's your mom doing?
Yeah, she's fine.
Yeah?
Yeah.
Your mom was let go.
Since when?
2 weeks. Now we're moving
forward. Alors Rox, c'est un film britannique signé Sarah Gavron, la fuite en avant d'une adolescente londonienne dont la mère, instable, va disparaître. Elle a 15 ans, elle va devoir s'occuper seule de son petit frère et surtout faire en sorte que les voisins notamment ne se rendent pas compte que la mère est partie parce qu'elle n'a pas envie d'être placée en famille d'accueil ou par les services sociaux. Rox, c'est d'ailleurs son prénom, elle rit beaucoup, elle parle fort, elle camoufle ses sentiments, elle va s'aider aussi de toutes ses copines adolescentes pour essayer de s'en sortir. C'est d'ailleurs ce qui est assez beau dans ce film, que le distributeur nous présente comme un Ken Loach au féminin, carrément. On va en débattre dans un tout petit instant, mais d'abord, qu'en avez-vous pensé ?
J'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime bien Londres, donc ça fait plaisir de voir une facette que je connaissais moins.
Ça m'a beaucoup plu aussi, ça permet de voir un peu comment les jeunes évoluent dans ce milieu et un peu le parcours qu'ils ont à faire, quoi.
C'est un très beau film, belles images, belle musique, tout.
Ça essaye de chercher autre chose que des questions sociales, mais plus de l'intime. C'est beau et assez touchant.
C'est du Ken Loach, mais en plus jeune.
Ben voilà, c'est du Ken Loach, nous dit ce spectateur. Geoffrey Crété, Rox ?
D'un côté, c'est oui, parce que j'aime beaucoup le côté teen du film. Je trouve que les adolescentes, le regard sur le féminin, la réalisatrice avait fait notamment les suffragettes, donc on sent que c'est un sujet qu'elle aime, qui lui plaît. J'aime bien la manière dont elle raconte ces jeunes filles qui essayent de se trouver, qui ont des problèmes avec comment elles sont les unes par rapport aux autres, comment interagir avec une nouvelle venue, comment gérer son corps, comment gérer la féminité, tout ça, ça me plaît. Le côté pseudo Ken Loach féminin, par contre, je le trouve un petit peu trop simpliste. C'est vraiment pas la chose la plus intéressante dans le film. C'est beaucoup trop attendu. Il n'y a pas beaucoup de cœur qui est mis de ce côté-là. La manière dont ça avance, c'est trop mécanique. Donc oui, pour les adolescentes et les jeunes actrices, c'est un peu moins pour le reste. Et comme le film est un peu entre les deux, bah, du coup, c'est un mi-oui, mi-non.
Mi-figue, mi-raisin. Marilyn Le Tertre, Rox.
Moi, c'est un grand oui, décidément. On n'est pas d'accord aujourd'hui. Alors en fait, je comprends très bien la comparaison avec Ken Loach, parce que comme chez lui, il y a cette âpreté, et cette difficulté, cette misère sociale.
Il y a même un grain d'image qui pourrait se rapprocher.
Et puis on parle quand même aussi de deux gamins abandonnés, donc d'une thématique sociale extrêmement difficile. Mais par ailleurs, il y a aussi de vrais moments extrêmement lumineux, c'est je crois ce que mon camarade voulait dire, puisqu'il arrive à capter la vitalité et l'énergie de l'adolescence très très bien. Il y a de très jolis moments entre toutes ces jeunes actrices qui sont toutes débutantes et qui sont absolument stupéfiantes.
Oui,
et voilà, donc moi c'est un grand oui, j'ai été très touchée par cette histoire, même s'il est vrai qu'effectivement on devine où ça va aller, mais c'est pas tant le sujet, c'est pas très grave en fait. Ce qui est important, c'est ce qu'il nous raconte à cet instant-là, comment vit cette gamine qui est quand même une espèce de force de la nature, qui a une résilience en elle absolument étonnante pour une adolescente. Donc moi j'ai été très touchée par les personnages et je dis allez voir Rox.
Et ben voilà, Rox, signé Sarah Gavron.
Clap.
Et puis je voulais qu'on dise un mot pour finir dans cette émission, parce qu'on va en parler de temps en temps, parce qu'aujourd'hui le cinéma c'est aussi sur les plateformes, et Disney+ nous offre depuis quelques jours maintenant Ivan, le seul et unique Ivan, c'est le titre. Alors Ivan, c'est un gorille de 200 kilos qui vit dans un centre commercial, il y a l'éléphant Stella, le chien Bob, voilà, il s'est fait à sa condition, il oublie peu à peu sa jungle, jusqu'au jour où arrive une petite éléphante, Ruby, et ça va tout bouleverser.
On va leur offrir un grand spectacle.
Le seul et unique
Ils tiennent tant à voir un gorille en colère.
Parce que c'est un dos argenté, les humains le trouvent terrifiant.
Oh.
Non, tu fais pas peur.
Waouh, c'est toi qui as dessiné ça ?
Un gorille qui dessine ?
Marilyn Le Tertre, ce Ivan, vous avez envie de lui faire un gros câlin ?
J'ai passé l'âge. Malheureusement, je crois que si l'on a dépassé à peu près les 10 ans, c'est foutu. C'est assez naïf, c'est mièvre, c'est bien foutu visuellement, bien sûr, c'est plein de bons sentiments. C'est une histoire d'amitié, de solidarité. Aussi, on essaye de nous expliquer, il y a un message environnemental, écologique, remettre les animaux dans leur espace naturel, sauf que c'est pas tout à fait ça à la fin, et c'est ça qui me dérange d'ailleurs un petit peu, mais je ne raconterai pas.
Non.
Donc moi j'ai clairement passé l'âge, je pense que tout adulte a passé l'âge, mais vos enfants de moins de 10 ans apprécieront sans aucun doute.
Geoffrey, vous avez passé l'âge aussi ?
Oui, bah pour le coup je suis d'accord, hein. C'est un film pour enfants,
voilà,
pour l'horreur que ce film. C'est un film pour les enfants, mais dans le mauvais sens du terme. Le spectacle, il est vraiment très bas de gamme. Techniquement, évidemment, c'est ce Disney, donc ils savent gérer avec le Roi Lion, le Livre de la Jungle. La technique, ils savent, encore une fois, c'est pas le problème, mais il n'y a rien à retirer de ce film-là. C'est comme un grand téléfilm de Noël, de luxe, qui a coûté beaucoup trop cher et beaucoup trop d'acteurs connus, mais qui ne raconte rien. Et c'est pas parce que c'est tiré d'une jolie histoire vraie que ça donne envie de pleurer sur le film. En tout cas, pas dans le bon sens.
Voilà, le seul et unique Ivan sur Disney+. On a aussi parlé de Rox, on a parlé du Bonheur des Ans, on a parlé de la Daronne. Et comme vous n'étiez pas d'accord, eh ben, chers auditeurs, allez vous faire votre avis en salle, ça reste la meilleure solution. Merci Marilyn Letertre, Madame Figaro, on lit ça toutes les semaines.
J'espère.
Écran
merci
large,
Mathieu.
Geoffrey Crété, merci beaucoup d'être venu dans ce studio. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, c'est-à-dire 14h, 15h sur Europe 1. Merci à Marjorie Adelson qui prépare l'émission et vient récolter vos avis comme ça à la sortie des salles, c'est toujours très intéressant. Nicolas Baudin qui réalise l'émission, et vous retrouvez dans un tout petit instant l'invité d'Isabelle Morizet. Aujourd'hui, c'est Olivier Debenoît. Europe 1.